Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission théâtrale préférée, Tonnerre de Brecht. Martin et moi vous souhaitons tout d'abord une très belle année 2021, pleine de culture, de théâtre, de cirque, de danse, de musique, de livres, de paillettes et de lumière. Cette semaine, on écoute la fin de la pièce de théâtre radiophonique Rosa Liberté. Bonne écoute! Rosa Liberté. Un texte de Philippe Forgeau. Seconde partie.
Kostia. 22 ans à peine. Kostia, c'est un joli nom. Kostia, je pourrais être ta mère. Mais puisque c'est la femme, mais puisque c'est l'amante que tu veux en moi, prends-la. Prends-moi. Kostia, je t'aime. Parce que tu m'aimes d'un amour premier. Pure, vierge, sans fard et sans fardeau. Léo m'initia au plaisir, et moi, je te révèle, Kostia, à ta sexualité, comme je t'initie à l'art et à la politique. Je suis ta maîtresse et ton initiatrice. Avec toi, sans honte, sans préjugé, je puis être moi-même. Et au diable cette vie dissolue, dont m'accusent et m'accablent mes ennemis de toujours. Tu m'aimes, gamin. Moi, le canard boiteux. Kostia, 2 ans d'un amour un peu fou. 2 ans d'un amour juvénile. En m'aimant, tu m'as forcé à t'aimer, Kostia. Mais lorsque ton amour a cessé d'exister, ça en a été fini aussi de mon amour. Quand on n'aime plus, on devient implacable, n'est-ce pas ? Kostia, 24 ans à peine. Kostia, c'est un joli nom. Et désormais, après l'amour fou, complicité, tendresse et fraternité se sont glissées entre nous. C'est comme ça. C'est ainsi. L'étourdissement n'est plus. Mais peu importe. Grâce à la révolution, je vais bientôt connaître un nouveau tourbillon pour m'étourdir et m'étourdir encore. Pour étourdir mon cœur et étourdir mon corps. L'étourdissement, c'est la seule chose qui vaille, non ? Et peu importe encore les sacrifices qu'exigera de moi la révolution. La révolution est magnifique et tout le reste est foutaise. La révolution, comme l'amour, fait partie des plus belles choses de la vie et l'embrasement est proche. Car ça en est fini dans les pays de l'Ouest, du rôle dominant des puissants. La révolution est mûre dans les pays de l'Ouest et ces dictatures libérales n'ont plus assez de force pour rester au pouvoir. Dans les pays de l'Ouest, l'heure est enfin venue pour le prolétariat. Mais nous avons un combat à mener contre les nationalismes. La nouvelle plaie du monde, c'est le chômage et la misère. Et sur cette nouvelle plaie du monde, partout, dans chaque pays, un front national fait son lit. Partout, dans chaque pays, ce front national s'abreuve du sang qui suinte et du pu qui s'échappe de la nouvelle plaie du monde. Et tout en s'abreuvant, il recrache dans le sang son fiel et son poison. Ce front national se sert de la misère et du chômage pour tromper, enrôler, détourner et abuser les masses. Soyons hostiles au nationalisme, au parti nationaliste, au front national. L'ennemi principal est parfois dans notre propre pays. Ne laissons pas les partis nationalistes refaire l'histoire, organiser les ouvriers, rééduquer le peuple. Tandis que les salaires stagnent et que le nombre de chômeurs s'accroît, ne laissons pas la propagande nationaliste infecter toute la plaie. Ne nous laissons pas dominer par la peur, par le repli sur soi-même, par la peur de l'autre, de l'étranger. Le peuple est pris entre les bruits de la guerre qui gronde, la propagande nationaliste et les difficultés de la vie quotidienne. Le peuple hésite. L'angoisse se diffuse dans le corps social et partout, une dérive droitière s'opère. Elle porte en elle le chauvinisme extrémiste, le patriotisme exacerbé, l'exaltation de la préférence nationale et de la xénophobie. Est-ce cela, être un homme ? Est-ce cela, être une femme ? La nation désigne un ensemble d'hommes et de femmes qui forment une communauté politique et qui sont établis sur un même territoire. La nation est, par essence, cosmopolite. Ne laissons pas un front national détourner le sens même de la nation. Car le nationalisme mène à la guerre, et la guerre n'ouvre jamais la voie à la révolution. La guerre met en place toujours et partout des pouvoirs militaires et autoritaires. La guerre est une nécessité du système impérialiste. Elle est le triomphe de la barbarie. Il faut lutter contre les nationalismes et contre la guerre, car l'appartenance à une nation divise les ouvriers au lieu de les unir. Le devoir de la classe ouvrière est d'empêcher la guerre et de hâter la fin du capitalisme. Le nerf vital de l'État, c'est le militarisme. Et il faut faire en sorte que ce nerf soit tranché le plus vite possible. Il faut appeler, en cas de guerre, les soldats à ne pas tirer sur l'ennemi. Il faut appeler, en cas de guerre, les soldats à refuser d'obéir. La guerre signifie la défaite du socialisme et de la démocratie. Et on ne pourra pas supprimer l'impérialisme, le militarisme et les guerres aussi longtemps que durera le capitalisme. À la guerre, les dividendes grimpent et les prolétaires tombent.
La vieille putain ! Sale juive ! Les crachats au visage, coups de crosse dans le crâne, une balle dans la tête, corps jeté dans l'eau, Rosa la Rouge dans l'eau, comme une pierre grise dans l'eau noire.
S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger.
La nuit, je rêve de ta bouche, Hans. Et dans ce rêve magnifique et vivant, mes doigts caressent tes lèvres, et je dis « Cette bouche m'appartient, cette bouche est à moi. » Hans, j'ai été amoureuse de l'amour parce qu'il permet de vivre dans l'ivresse, de vivre dans l'extase, Hans. Hans, mes lettres me sont revenues sans avoir été ni ouvertes ni lues. Hans, tu es mort une nuit de guerre sur le front ouest, et il me faut chercher et recueillir quelque part dans le monde des traces vivantes de ton existence même. Hans, la guerre a frappé celui qui était taillé dans l'étoffe la plus pure, dans l'étoffe la plus douce dont l'homme puisse être fait. Nous sommes tous soumis au destin aveugle, Hans. Hans, je vis parfois dans un monde de rêves dans lequel tu n'es pas mort. Pour moi, tu es toujours en vie, et quand je pense à toi, je te souris, Hans. Oui, la guerre a éclaté. La guerre fait des ravages. Un grand tremblement de terre. Est-ce que les masses se sont repliées sur elles-mêmes ? Un monde s'effondre, et comme tout le monde, j'appartiens à ce monde qui s'effondre. À Paris, ils ont assassiné Jaurès. Tout tombe en ruine. Climat de fin du monde. La nuit dernière, j'ai voulu m'ôter la vie, me retrancher de la vie. Est-ce que l'on peut se retrancher de la vie ? Mes amis m'en ont empêché. Il faut bien continuer la lutte. On ne change pas de peau à 40 ans. Il faut défendre ses idées jusqu'au sacrifice de sa propre vie, jusqu'à la mort. Je ne fuirais pas même si j'étais menacée de la potence. Je serais expédiée dans l'au-delà par une balle de la contre-révolution. Il faut toujours au mouvement révolutionnaire des martyrs, n'est-ce pas ? Mais en attendant, pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule. Je crois aux masses, Un jour, une nuit, elles seront derrière nous. Mais pour l'heure, la ville se vide de tous ces hommes, fils, frères, pères, époux, amants qui vont tomber au champ d'honneur et qui, piétinant dans le sang, laissent la guerre faire de leur chair vivante de la chair à canon. Champ de déshonneur, la guerre. Effroyable massacre de millions de prolétaires, la guerre. Orgie de l'impérialisme assassin, la guerre. Mensonge au nom de la patrie, la guerre. Mensonge encore au nom de la civilisation, la guerre. Mensonge toujours au nom de la liberté, la guerre. Mensonge enfin au nom du droit des peuples, la guerre. Mensonge, la guerre, qui dévaste villes et campagnes, qui souille la civilisation, qui foule aux pieds la liberté et le droit des peuples, qui trahit le socialisme et l'humanisme. Il est impossible de se taire devant ça, n'est-ce pas ? Je circulerai dans tout le pays et j'entretiendrai le feu un peu partout. La libération de la classe ouvrière doit être nécessairement l'œuvre de la classe ouvrière elle-même. C'est presque toujours le bas qui donne l'impulsion. Le peuple a pour lui l'énergie et le nombre, la capacité d'inscrire la résistance dans une longue mémoire. Car rien ne s'oublie dans les campagnes ni dans les quartiers des villes. Que fait le peuple aujourd'hui ? La révolution socialiste internationale mettra fin à l'inégalité entre les hommes, à l'exploitation de l'homme par l'homme, à l'oppression d'un peuple par un autre. La révolution socialiste internationale libérera la femme de l'assujettissement à l'homme. Elle ne tolérera plus les persécutions religieuses, les délits d'opinion ni l'oppression raciale. Alerter, convaincre, prévenir, dénoncer, démasquer, dire. Je serai l'âme de l'opposition, dehors ou en prison. Rien ni personne n'empêchera ma pensée d'être libre. Aucun chien, aucun soldat, aucun maître. La main qui te caresse pour te faire remuer joyeusement la queue, mord-la jusqu'au sang.
La vieille putain ! Sale juive ! Les crachats au visage, coups de crosse dans le crâne. Une balle dans la tête, corps jeté dans l'eau. Rose à la rouge, dans l'eau. Comme une pierre grise dans l'eau noire.
Novembre 1918. Le grand tremblement de terre qu'est la guerre a pris fin, laissant place à la révolution allemande. Un an plus tôt, au printemps 1917, la révolution russe a enfanté l'avenir, comme si l'horizon noir se lézardait soudain et qu'une nouvelle lumière éclairait désormais la grande scène du monde. Un espoir. Un espoir.
Décembre 1918. Le programme de la Ligue spartakiste est rédigé. La Ligue spartakiste, qui tire son nom de Spartacus, meneur de la plus grande rébellion d'esclaves de la République romaine. Appel à descendre dans la rue. Demande l'abrogation de la peine de mort.
Clouez Spartacus sur la croix !
S'écrient les capitalistes, les officiers, les antisémites, les laquais de presse.
Clouez Spartacus sur la croix !
Cette haine confirme que Spartacus est le cœur de la révolution et que l'avenir nous appartient. Décembre 1918. Conseil d'ouvriers et de soldats révolutionnaires. Oui, après la Russie, en Allemagne aussi, tout bouge. Mutinerie et grande grève. Dans les rues se forment les cortèges, manifestations, rassemblements. Les drapeaux rouges claquent au vent. Le drapeau rouge, c'est aussi le nom d'un journal. L'International, c'est aussi le nom d'une revue. Pour les femmes, les soldats, les jeunes, les vieillards. Écrire, alerter, dénoncer, convaincre, rassembler... Les lettres de Spartacus circulent déjà à plus de 30 000 exemplaires. Mais les militaires rôdent, l'armée est partout, nous sommes surveillés. Nous ne devons pas coucher chez nous. Chaque nuit, trouver refuge ailleurs, chaque nuit. Nouvelle chambre d'hôtel, chaque nuit. Nouvelle chambre d'amis. Nous voulions la révolution ? Elle est là. La révolution est longue à mettre en marche. Mais quand elle est lancée, on ne peut plus arrêter la marche d'une révolution. Précipitation du temps. Ligne de faille.
6 novembre 1918. Les troupes gouvernementales sont contre nous. La manifestation spartakiste a été dispersée à coups de mitrailleuse. 13 morts, 30 blessés.
8 novembre 1918. Une autre manifestation, plus gigantesque encore.
10 décembre 1918. Les régiments sont partout autour de nous.
12 décembre 1918. La ville est envahie par les soldats, les Freikorps, les corps francs. Freikorps, membres fanatiques de l'armée vaincue. Freikorps. Ils ont perdu la Première Guerre mondiale, mais se rêvent en héros. Freikorps, ils ont l'amertume et la haine de tous ceux qui rêvent de gloire, mais sont privés de la victoire. Freikorps. Ils se dressent contre ces ennemis de l'intérieur, que sont les prolétaires, pour empêcher que la révolution russe gagne maintenant l'Allemagne. Freikorps, Adolf Hitler, est un de ces hommes-là, fanatique, antisémite. Il a 29 ans, mais déjà, il a soif de vengeance.
22 et 23 décembre 1918. Les marins révolutionnaires résistent à l'assaut des militaires. Les spartakistes quittent le parti socialiste et fondent le parti communiste allemand.
4 janvier 1919. Berlin est encerclé par 80 000 soldats prêts à liquider ces brigands spartakistes. Nous, des brigands. Le gouvernement nomme un nouveau préfet de police. Manifestation, encore. Mouvement de masse, mouvement des masses. Le drapeau rouge appelle à des mesures révolutionnaires, à l'armement du prolétariat. Il faut que les masses soient dans la rue. Il faut les pousser en avant. L'armée nous traite d'ennemis du peuple. Nous, des ennemis du peuple.
5 janvier 1919. Ils nous traitent d'ennemis du peuple. Mais aujourd'hui encore, le peuple est dans la rue. Le peuple est avec nous. Il y va de votre liberté. Il y va de votre avenir. Il y va du destin de la révolution. Vive le socialisme révolutionnaire international. Ils m'accusent d'être une femme de discours et de songes. Mais le 5 janvier 1919, nous sommes des dizaines de milliers de manifestants, des ouvriers, des soldats en armes. Une foule, une véritable armée, immense. Une foule immense dans le brouillard. Une foule immense dans un brouillard à couper au couteau. 5 janvier 1919. Les masses sont derrière nous et elles veulent une autre direction. Les masses ont pris conscience. Les masses ont repris connaissance et elles s'éveillent.
6 janvier 1919. Coup de théâtre. Les marins révolutionnaires refusent de rejoindre l'insurrection contre les Freikorps. Les Freikorps raillent. Où est notre Rosa? Ils veulent leur Rosa. Ils veulent la peau de leur Rosa.
Rosa la Rouge, Rosa Luxembourg, Rosa l'étrangère, Rosa la Juive, Rosa la Rouge, la vieille putain.
6 janvier 1919. Que peut-on faire contre 80 000 militaires en armes? Sonner le repli, battre en retraite, abandonner? Mais non, les masses sont prêtes à appuyer toute action révolutionnaire et à traverser feu et flammes pour la cause du socialisme. Je sais que c'est en élevant les consciences des ouvriers et non en les armant que l'on doit préparer une révolte populaire. Mais c'est le régime dirigeant qui nous a poussés à une insurrection armée. Je sais que la révolution prolétarienne n'a besoin d'aucune terreur pour atteindre ses objectifs. Qu'elle abhorre et hait le meurtre. Mais il faut bien réagir, se défendre. Après tout, quand un enfant vient au monde, il crie, il ne gazouille pas. Et la révolution vient au monde. Et elle crie, elle aussi. Alors ne parlez pas, ne négociez pas, agissez. On ne peut apprendre à organiser des actions révolutionnaires que dans la révolution. Tout comme on ne peut apprendre à nager que dans l'eau. Pas de tractation, à l'action. Dans l'histoire du monde, à l'origine de la révolution, le ressort premier des rébellions est d'ordre moral. Un sentiment de dignité, une demande de liberté et d'avenir. Nous voulons être traités comme des citoyens et non comme des cerfs ou des chiens. Rions, applaudissons le désordre, n'ayons plus peur, ne les laissons pas venir nous égorger. Il s'agit simplement de choisir notre façon de mourir. Jusqu'ici, les révolutions ne nous ont apporté que des défaites. Mais ces défaites, inévitables, ne font qu'ajouter une caution à la garantie de notre victoire finale et future. Après tout, il faut bien prendre l'histoire comme elle se déroule, non?
La vieille putain! Sale juive! Les crachats au visage. Coup de crosse dans le crâne. Une balle dans la tête. Corps jeté dans l'eau. Rosa la Rouge dans l'eau. Comme une pierre grise dans l'eau noire.
11 janvier 1919. Les Freikorps ont nettoyé Berlin de ce qu'ils appellent les brigands spartakistes. Nous, des brigands. Ils ont fusillé des spartakistes qui se rendaient en brandissant un drapeau blanc. Drapeau rouge, drapeau blanc taché de sang. 11 janvier 1919, l'échec est total. Ils ont écrasé l'insurrection, étouffé l'effervescence révolutionnaire. Il ne reste maintenant plus qu'à tuer Rosa Luxembourg. Tuez Rosa Luxembourg si vous voulez avoir la paix, du travail et du pain. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils placardent dans les rues.
Janvier 1919. Ma tête est mise à prix. 100 000 marques.
14 janvier 1919. Je prépare ma petite valise. Ils vont venir. Il faut que je sois prête quand ils vont venir. Je ne veux pas qu'ils aient la satisfaction de me surprendre. On ne surprend pas Rosa Luxembourg. 14 janvier 1919. L'ordre règne à Berlin. C'est le titre de mon dernier article. J'ai écrit jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, j'ai combattu mes démons intérieurs avec un encrier. 14 janvier 1919, l'ordre règne à Berlin. C'est le titre de mon dernier article. 14 janvier 1919, l'ordre et la terreur ont gagné contre le désordre. Dommage, ils ont peur du désordre. Alors que le désordre, ce n'est peut-être qu'une création collective violente finalement. 14 janvier 1919, ils ont frappé à coups de crosse le visage de la Révolution. Ils ont fait éclater le crâne et jaillir la cervelle. L'ordre règne à Berlin. La route du socialisme et des luttes révolutionnaires est pavée de défaites. Et pourtant, cette histoire mène irrésistiblement, pas à pas, à la victoire finale. La route est bordée de tombeaux, mais elle mène à la justice, disait Jaurès.
15 janvier 1919. Les voilà. Qui leur a donné l'adresse où je me cachais? Peu importe. Dans ma petite valise, j'ai mis le Faust de Goethe et quelques autres livres. Et quand ils entrent dans ma chambre, je les attends. Debout. Prête. Ma petite valise à la main et le sourire aux lèvres. 15 janvier 1919. Et maintenant, condamnez-moi.
La vieille putain. Sale juive. Les crachats au visage. Coup de crosse dans le crâne. Une balle dans la tête. Corps jeté dans l'eau. Rosa la rouge dans l'eau. Comme une pierre grise dans l'eau noire.
25 janvier 1919. On enterre mon cercueil vide. Mon cercueil sans corps.
31 mai 1919. On repêche mon corps près d'une écluse. Sans savoir si c'est vraiment mon corps. Est-ce qu'on peut ne plus appartenir à son propre corps? On croit reconnaître mes gants, des morceaux de ma robe en velours, mon pendentif en or, mais mon visage, on ne l'identifie pas. On ne reconnaît pas mon corps en décomposition. Est-ce qu'un corps peut se décomposer à ce point, au point qu'on ne sache à qui il appartient? 31 mai 1919. Que reste-t-il donc de la révolutionnaire héroïque? Que reste-t-il donc de l'agitatrice dangereuse? Un corps en décomposition? Tuméfié, meurtri, défiguré? Un corps sans visage en quelque sorte?
13 juin 1919. On dispose mon corps dans mon cercueil, jusque-là vide. Une foule immense suit l'enterrement de ce corps sans visage. Les trains et les tramways s'arrêtent. Les usines sont en grève. 13 juin 1919, jour de deuil national pour tous les prolétaires.
despote sauvage, du soin de proclamer ses droits. Créons des droits à notre usage ayons des lois, à notre usage ayons des lois. Si l'homme en l'an 93 du soin de ne songer qu'à lui, travaillons pour nous aujourd'hui, faisons-nous une Marseillaise. Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, Marie jaloux, respect au cotillon.
Léo, Léo, mon camarade, nous étions des amants. Léo, mon doux amant, nous étions camarades. Léo, mon camarade, je t'ai aimé. Nous avons voulu faire l'un de l'autre un être humain. Kostia, mon camarade, je t'ai aimé, mon jeune amant. Si tu savais, j'ai aimé quand tu me désirais. J'ai aimé comme tu me désirais. Même si nous avons joui, avons-nous fait l'amour et la révolution?
Hans, mon camarade, j'ai toujours voulu pour toi, mon bel amant, être en bonne santé et jolie. Mais toujours, j'ai eu peur d'être laide à ton retour. Seulement, tu n'es jamais rentré.
Léo, mon doux amant, est-ce que je n'aurai jamais un enfant? Kostia, mon jeune amant, est-ce que je n'aurai jamais un petit?
Hans, mon bel amant, est-ce que je n'aurai jamais un bébé?
Est-ce qu'on ne pourra jamais, jamais, là où il n'y a pas d'enfant, il n'y a ni fête, ni vie. Pourtant, c'est si vide et si absurde une maison sans gosse. J'ai rêvé d'un enfant que je n'aurai jamais. Mais on ne peut pas être mère et révolutionnaire. C'est ainsi. Une mère a des enfants. Les idées, ce sont les seuls enfants que peut avoir une révolutionnaire. Malgré tout, je me sens chez moi, partout où il y a des nuages, des oiseaux et des larmes.
Léo, mon camarade.
Kostia, mon camarade.
Hans, mon camarade.
Serons-nous toujours seuls? Serons-nous toujours deux?
Léo, la vie est-elle une chose aride et dépourvue de joie?
Parfois, Kostia, je vais dormir le soir avec autant d'indifférence que je me lève le matin.
J'ai mal, Hans. Même si tu fais indestructiblement partie de ma vie, ton souvenir est douloureux comme une crampe à laine.
Léo, j'ai 18 ans.
Kostia, j'ai 40 ans.
Hans, j'ai 48 ans.
Et à chaque âge de ma vie, je me souviens. Alors que je n'étais qu'une petite fille, de tous ceux qu'on a pendus dans la citadelle de Varsovie. Je n'ai jamais été une enfant, mais j'ai toujours fait la révolution.
La vieille putain! Sale juive! Les crachats au visage, coup de crosse dans le crâne, une balle dans la tête, corps jeté dans l'eau, Rosa la rouge dans l'eau, comme une pierre grise dans l'eau noire.
Hôtel Eden. Dernière prison. Hôtel Eden. Hôtel Eden. Dernière station. Terminus, tout le monde descend. Hôtel Eden. C'est un drôle de nom pour une prison. Eden, ça veut dire paradis, non? La vie est cynique parfois. Prison, paradis. Voilà mon dernier hôtel. Mais paradis ou pas, Hôtel Eden, peu importe pour eux le nom de ma dernière prison. Pour eux, il faut céder à l'ivresse de la meute. Il faut juste m'abattre. Il faut juste me faire taire. Il faut bien me briser. Il faut éteindre cette flamme antimilitariste et internationaliste qui brûle en moi. Il faut bien faire un exemple de moi. Il faut bien
effrayer celles et ceux qui seraient tentés de me suivre, de suivre le même chemin, de suivre la même voie, d'écouter ma voix. Je ne sens ni peur, ni douleur, ni solitude, tout comme un cadavre. Tout s'apprend, y compris ne plus avoir peur, y compris ne plus fuir. J'ai pris le risque de risquer ma vie pour l'humanité. Je la perds aujourd'hui, comme j'ai perdu mes amis, morts, pendus, emprisonnés, déportés. Morte, coup de crosse, une balle dans la tempe gauche, cadavre lesté de pierre jeté dans le canal, Rosa Luxembourg, 5 mars 1871. 15 janvier 1919. L'internationale est morte et les nationalismes vont triompher. Je n'ai pas prêché dans le désert. Il faut parfois prêcher dans le désert pour être écouté, pour être entendu, pour que l'onde de choc, de l'écho de tes mots traverse le désert jusqu'à celle ou celui qui l'entendra enfin. Un jour, une nuit. Cela peut mettre parfois 100 ans à se répercuter, l'onde de choc de l'écho de tes mots. Mais je parle yiddish, polonais, russe, allemand et français, et même morte. Les foules m'applaudissent encore, et même morte, je ne suis pas prête de me taire. On ne bâillonne pas, Rosa la Rouge, Rosa Luxembourg. Rosa l'étrangère, Rosa la juive. Ma voix résonne encore en toi aujourd'hui, comme l'onde de choc de l'écho de mes mots, elle coule telle une pierre grise dans l'eau noire de la nuit.
Et c'est la fin de ce magnifique texte. Merci tout d'abord à Philippe Forgeau pour nous avoir accordé le droit de reprendre ces mots d'autant plus fort en ce moment. Et merci à notre très belle équipe de comédiens et de comédiennes, Émilie Schutz, Théo Huchbert, Clara Cucci, Louise Maffé et Soukaina Gouaillé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission théâtrale. Enfin Brecht, 2020 c'est fini et tant mieux, 2021 sera l'occasion de parler encore de théâtre avec vous. Terminez bien les vacances et à la semaine prochaine.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.